Pavillon Nomade. Le direct.
Bienvenue sur Pavillon Nomade, la radio où les micros s'animent, où les échanges prennent vie à chaque instant. En direct jusqu'à 16h30 depuis la buvette du MQC, Malévo Quartier Culturel. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont dans les pavillons, qui sont dans les alentours, il y a encore de la place, on est pas mal autour de la table. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir nos participants du jour. On en a beaucoup aujourd'hui, ça fait plaisir. Il y a Nicole, il y a Flore, il y a Max, il y a Shadia, il y a nos chroniqueurs du jour aussi, Joël, JP, Jean-Pierre. On a aussi Sébastien. On a Eliane et on a... Alors, on va l'équiper d'un micro parce que j'ai un petit blanc vu que... Rabi, voilà, merci Rabi d'être présent. Et on a cet après-midi aussi une invitée d'honneur, Camille Bovier avec qui on va pouvoir, d'ici quelques minutes, en peut-être deuxième partie, pas tout à fait, mais presque d'émission, aborder le thème sur son travail, sur la diététique, diététicienne de métier. On va voir un petit peu où ça va nous emmener. On aura également au programme cet après-midi une chronique qui s'intitule « Ouverture créative » par Jean-Pierre, « Joe les beaux tuyaux » par Joël, et on aura en fin d'émission un thème proposé par un de nos participants du jour qui s'intitule « Voyage » et peut-être même qu'on fera des petites incursions ou comment les animaux voyagent autant par temps de canicule. En tout cas, aujourd'hui, on est en direct jusqu'à 16h30, comme je vous ai dit. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par notre émission, émission que vous retrouverez dans son intégralité en rediffusion sur notre site pavillonnomade.ch. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour.
Alors Jean-Pierre, pour ceux qui ne le voient pas, hein, parce qu'on est beaucoup autour de la table, Jean-Pierre, il nous a éclipsé aujourd'hui par sa superbe chemise, une chemise rose pétante. Alors pour un daltonien, oui, je vois le rose, c'est vrai, et c'est la panthère rose. Alors je ne sais pas si votre chronique aujourd'hui, Jean-Pierre, aura un lien avec votre chemise ou pas.
Oui, c'est justement, j'ai mis ça pour éclipser toutes les couleurs ternes. J'ai une belle couleur rose pour ça, pour parler de l'éclipse.
Allez, c'est parti, c'est à vous Jean-Pierre.
Alors donc, nouvelle plutôt réjouissante, on a tous encore la vue, c'est bon, vous aviez vos lunettes hier. Donc c'était le challenge de hier après-midi, c'était trouver des lunettes en dernière minute sur Marketplace. J'en ai trouvé, mais à 25 balles pièce. Compliqué, mais trouvé. Pour revenir sur les éclipses en général, moi le premier contact que j'ai eu avec une éclipse, c'était l'album de Tintin, Le Temple du Soleil. Il a eu la vie sauve grâce à un journal où était annoncé l'éclipse qui allait arriver. Il a eu la vie sauve parce qu'il a fait croire au peuple aztèque que c'était lui qui contrôlait le soleil. Et moi, je voulais revenir un peu sur les similitudes que j'ai vues entre hier et le 11 août 99, où j'ai eu la chance de pouvoir voir une éclipse totale en allant à 6 heures de route à Vouziers, près de Verdun. C'est les colonnes de voitures qu'il y avait juste avant d'arriver au lieu d'observation. Hier soir, à Villeneuve, il y avait jusqu'à Aigle des voitures. Il y a eu des bouchons de partout. Et le jour où je suis allé en France, c'était aussi toutes les autoroutes étaient bloquées. C'était impressionnant. Et donc, ce que je voulais dire, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était de pouvoir être avec un ami et regarder ce spectacle avec les lunettes, donc, qui était beaucoup plus long que celui de 99, où c'était que quelques minutes. Même si c'était... plus court, c'était bien parce qu'il y avait beaucoup de monde, on était installés sur un banc, j'avais amené une petite bière qu'on a partagée, 0%, hein, une diversion. Et je voulais parler un petit peu aussi de ce qui s'était en 99 parce que ce qui m'avait impressionné, moi, c'était que j'étais au milieu de la campagne avec les bruits de la campagne, les poules, les vaches, les gens qui étaient autour. Et quand l'ombre totale est arrivée, il y a eu une fraîcheur, c'était en été, il y a eu 3-4 degrés de différence et tous les animaux se sont tus comme ça, c'était vraiment impressionnant. Ce que je n'ai pas vécu hier, j'ai vécu un truc différent, mais c'était quand même joli. La prochaine, ça sera le 2 août 2027. Il faudra être dans le sud de l'Espagne. Alors, prenez rendez-vous, ça sera la 17e du 21e siècle. Si vous avez envie de la voir, rendez-vous dans le sud de l'Espagne. Dernière chose, j'ai appris par ces deux événements que, un, si les gens te disent « c'est pas la peine d'y aller, on la verra d'ici », ben non, allez au bout de votre projet, écoutez pas les voix qui vous dissuadent. Voilà.
Eh ben, merci Jean-Pierre pour cette belle chronique. D'ailleurs, est-ce que la prochaine sera une éclipse totale ? Parce que celle de hier soir, c'était une éclipse totale, mais c'est pas tout le temps le cas.
Oui, alors il faudra être vraiment dans la pointe sud de l'Espagne pour être dans l'ombre complète.
Alors, ça veut dire qu'on n'en a pas eu pendant presque plus de 15 ans. Et là, en l'espace de 2 ans, on en aura 2.
Oui.
C'est étonnant, ça,
étonnant.
Non ? 3 même. Alors, Rabhi, on va parce qu'il a l'air d'être pas mal
même, oui,
au courant. 3. Il y en aura eu 3, parce qu'on en a déjà eu une en quelle année, alors ?
Non, il y en aura une en 2028 aussi, qui sera visible en Espagne. Voilà, c'est particulier. Pour l'Espagne, ce cas de figure, c'est que sur 2 ans, ils auront 3 éclipses solaires.
Donc l'adage se vérifie, jamais 203. Bah voilà, en tout cas, 3 éclipses. Alors, ça me fait penser autour de la table, qui a pu avoir eu l'occasion de voir cette éclipse hier ? Parce qu'on est quand même dans une région ici, au pied des dents du Midi. Le soleil se couche de l'autre côté du versant. Mais qui a eu l'occasion et a eu l'honneur de pouvoir voir cette éclipse ? Flore.
Bonjour à tous. Oui, je l'ai vu, mais pas en vrai. Au fait, c'était en rediffusé parce que là où je me trouvais, ce n'était pas possible de la voir. Et ça m'a évité de dépenser 25 francs dans des lunettes. Mais c'était, j'ai apprécié la fraîcheur, au fait, qu'il y a eu pendant cette éclipse. Et puis, qui sait, peut-être en Espagne. Ah, ce serait un bon truc, ça. Pourquoi pas organiser un voyage tous ensemble et puis aller en Espagne ?
Ce sera l'occasion peut-être d'en parler.
Pour voir la prochaine éclipse.
Dans la prochaine, à la fin de la rubrique. Donc, il y en a qui l'ont vu à la télévision. Alors, ça fait partie aussi des nouveautés de notre ère, hein, parce que les premières éclipses existent depuis tous les temps. Hein. Vous parliez des Mayas. Les Mayas, c'est quand même, en Amérique du Sud centrale, les Aztèques, ça remonte à combien d'années, ça ?
2000 ans au moins.
2001 au moins.
Ouais.
Non, je pense que les Mayas, c'est bien plus ancien que ça, à mon avis. Hein.
Je ne sais pas, mais la mécanique céleste, elle est assez connue depuis longtemps. Hein. Les Babyloniens calculaient déjà certaines révolutions de certains astres. Alors maintenant, je ne me suis pas plongé dans cette littérature, alors je ne peux pas dire, mais ça fait longtemps qu'on connaît qu'on sait calculer les éclipses, qu'on sait calculer les planètes aussi, tout ça, on sait calculer, ça fait longtemps qu'on observe. Ils n'avaient pas TikTok pour passer leur temps, donc ils passaient leur temps à regarder le ciel.
C'est ça, mais je serais étonné quand même de savoir, quand vous parliez de ces queues, on a vu à la télévision qu'il y avait en France des fois 20, 30, 40 minutes d'attente, je serais étonné de savoir le calcul, le ratio de combien ont acheté les lunettes et ont regardé finalement à la télévision. Parce que ça, je pense quand même, à mon avis, il y en a qui ont dû en acheter quelques-unes, puis se retrouver devant la télé en disant, j'ai acheté, mais je ne peux pas l'avoir depuis là, je n'avais pas pensé de regarder si elle en allait pas, et puis qu'on dû regarder à la télé, je ne sais pas. En tout cas, ça, à voir. En tout cas, moi, ce qui m'a fait rire hier, c'est que j'ai reçu un petit WhatsApp. D'ailleurs, je salue nos collaborateurs et tous nos collaborateurs de l'hôpital, parce que c'est vrai, vous parliez que ça a mis un petit moment de fraîcheur. Il fait encore très chaud, il fait encore lourd, mais je leur salue, en tout cas, pour le travail fait et les remercie. Ils m'ont quand même envoyé, pendant une éclipse totale, les Mayas sacrifiaient leur chef. Moi, je dis ça, je dis rien, mais au cas où. Alors voilà, donc ça m'a fait rire quand même, parce que je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils pensent peut-être vouloir me sacrifier sur l'autel de la forêt, je sais pas, Flore.
C'est justement, j'allais faire une blague là-dessus. Attention, Jimmy, on ne sait jamais.
Ben oui, c'est ça. Hein. En tout cas, ça m'a bien fait rire. Par contre, je suis quand même interloqué, on pourrait dire, étonné, parce que vous avez vécu où les animaux, où la nature, finalement, à un moment, au moment où, où l'éclipse était là, tout s'est tu. Alors, je ne sais pas qui a pu vivre déjà ça, Joël.
Alors moi, j'ai vécu celle de 99. Et j'avais mes lunettes spéciales et tout. Et j'ai une montée d'angoisse. Et je pense que, je ne sais pas si c'est prouvé, mais les animaux doivent avoir aussi cette montée d'angoisse de justement la lumière qui n'est plus et de se retrouver à l'ombre. Un peu comme certaines réactions dans le monde qui font que les animaux s'arrêtent ou ont peur. Alors,
merci.
Je ne sais pas si c'est éprouvé ou quoi, mais moi, j'ai eu cette montée d'angoisse. C'est pour ça que je ne regarde plus l'éclipse.
Merci de votre partage, Jean-Pierre.
Alors, moi, je pense simplement que les animaux réagissent par rapport à... C'est la nuit qui arrive, donc on dort. Surtout les poules, c'est des animaux qui sont assez réactifs par rapport à la lumière. Et les autres aussi, les oiseaux en général, ils sont très réactifs par rapport à la lumière. Mais c'est vraiment un truc qui m'avait frappé parce que j'étais dans la campagne. Il y a tous ces bruits qu'on entend habituellement dans la campagne. Ça s'est tu. Même les gens aussi. Tout le monde s'est tu. C'était vraiment comme, je dirais, un moment de recueillement, un moment où on était là devant ce spectacle de la nature avec la couronne qu'on voit tout autour de la Lune. C'était vraiment émouvant. Bah, ça fait 27 ans, je m'en souviens, mais comme c'était hier. Donc, moi, je dis que l'année prochaine, il faut vraiment que vous alliez voir celle qui sera dans le sud de l'Espagne.
Eh ben, on pourrait dire la date est prise pour ceux qui ont envie d'aller en Espagne le 2 août. Un autre événement quand même qui fait partie aussi de ces événements merveilleux qu'on peut voir à l'heure actuelle. Hier soir commençait aussi, je crois, la période de la nuit des étoiles filantes.
Les Perséides.
Les Perséides. Et c'est souvent autour du 11 et 12, 13 août. Donc si vous avez encore envie de vivre des moments comme ça, un petit peu merveilleux, comme pour ceux qui l'ont vécu hier soir, hein, on prend Joël, pour tout le monde peut-être, cette vision de ce côté qui s'assombrit, ça n'est peut-être pas que source de réjouissance, mais pour ceux en tout cas qui sont attraits aux étoiles et qui aiment ça, le ciel va être dégagé ces prochains jours. Il parle quand même, généralement, il faut se lever assez tard ou tôt, tout dépend comment on le prend. Généralement, le maximum ou l'apogée, c'est souvent entre 2 et 3 heures du matin. Donc, si vous avez envie de découvrir un petit peu cette belle voie lactée et ces étoiles filantes, et peut-être même faire des... Qu'est-ce qu'on fait quand on...
On fait des vœux. Ça, j'aime bien, par contre.
Bon, alors, Joël, le rendez-vous est pris aussi. Bah, merci pour le début de cette émission, hein, qui nous a mis déjà pas mal de petites, on pourrait dire, bonheur dans nos yeux en parlant de tout ça. On se retrouve dans quelques instants après une chanson qui s'intitule « Footloose » de Kenny Loggins. Sur les ondes de Pavillon Nomade après ce magnifique morceau de Kenny Loggins, Footloose, qui nous a, pour la plupart des anciens, peut-être renvoyer à des souvenirs très très anciens. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne absolument tous, l'alimentation et la nutrition. Manger, c'est évidemment une nécessité pour notre corps, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. C'est une question de plaisir, de culture, d'habitude, de souvenirs, de partage et parfois aussi de difficultés. Et quand on parle d'alimentation, on pense souvent au régime, aux calories ou encore à la perte de poids, mais le métier de diététicien, diététicienne va bien au-delà de tout ça. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir une professionnelle qui exerce à l'hôpital du Valais, Camille Bovier. Bonjour Camille.
Bonjour Jimmy.
Alors, quel est réellement le rôle d'une diététicienne? Quelle place à la nutrition peut-elle avoir en psychiatrie? Ou comment accompagner une personne dans son rapport à l'alimentation sans tomber dans les interdits et les injonctions? Pour répondre à cette question, je vous propose de partir à la découverte de son métier et son quotidien. Pour commencer, simplement, pouvez-vous vous présenter déjà, Camille, et nous expliquer un petit peu votre parcours et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être diététicienne?
Alors c'est un peu particulier parce que je ne m'étais jamais intéressée en fait à la diététique. À la base, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est vétérinaire. D'ailleurs, j'ai commencé des études de vétérinaire, mais ça ne s'est pas bien passé. Alors après coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai des connaissances en santé, donc j'ai regardé qu'est-ce que c'était les métiers qui proposent l'HES Santé. Et la diététique, c'était ce qui me parlait le plus parce qu'en fait, on retrouve énormément de choses. Comme vous avez dit, justement, ça concerne tout le monde. Il y a tout cet aspect santé, métabolisme, mais il y a aussi cet aspect psychologie et aussi culturel, finalement. Et c'est très vaste, donc c'est ça qui m'a motivée à apprendre ce métier, finalement.
Ben merci déjà pour prendre et répondre à nos débuts de questions. Alors, je ne sais pas si autour de la table, avant que moi j'ai quelques questions de préparer, je ne sais pas si autour de la table, déjà, il y a des gens qui ont envie de rebondir ou poser une question. Ou... Alors, Flore, le temps qu'on l'équipe du micro, et ben, on vous écoute, Flore.
Bonjour Camille.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui vous a le plus surprise et marqué dans votre arrivée dans ce milieu?
Alors, vous dites plutôt ici en psychiatrie ou bien
oui,
de manière générale?
En psychiatrie.
Alors, j'ai oublié de préciser, mais c'est vrai que je travaille en somatique à Sion et ici à Malévois en psychiatrie. Et ce que je vois comme grande différence, mais ce qui est aussi très plaisant, en fait, c'est le temps qu'on accorde finalement aussi à la compréhension du patient. Dans le sens qu'ici, on prend plus ce temps de comprendre les pourquoi du comment plutôt que d'aller à l'essentiel. Et je trouve que c'est important.
Merci.
Merci. Jean-Pierre?
Quand vous voyez les patients ici, est-ce que ça vous arrive d'être surpris par les prises de poids vraiment énormes par rapport aux médicaments ou... Est-ce que vous travaillez vraiment en collaboration avec les psychiatres pour voir quels médicaments pourraient faire en sorte que les gens prennent moins de poids, que ce soit un peu plus contrôlé ou c'est déconnecté l'un de l'autre?
Alors non, il y a un lien et puis c'est effectivement un besoin qu'on a ici, c'est ces prises de poids sur ces médicaments psychotropes. Après, actuellement, je n'en ai pas encore pris en charge parce que c'est un peu en discussion de comment faire cette prise en charge. Ce que je fais plutôt principalement... Actuellement, c'est ce qu'on appelle la dénutrition. Ça veut dire quand on n'a pas assez d'apport par rapport à nos besoins et que du coup, on commence à faire une perte de poids involontaire, notamment musculaire. Vu qu'il y a un danger létal et plus immédiat, c'est ça que je privilégie. Mais le but sur le long terme, justement, c'est d'essayer d'intervenir aussi auprès de ces patients quand c'est prise de poids pour l'adhérence au traitement.
Merci.
Shadia, on vous écoute.
Oui, j'avais une question sur comment, en diététique, pourquoi il faut avoir une si bonne alimentation? Est-ce qu'elle doit être vraiment variée? Parce qu'ici, on a le droit à quelque chose de très, très varié, mais quand on le fait chez nous, est-ce qu'on entend un peu tout?
Oui, effectivement, il y a énormément d'idées reçues dans l'alimentation, surtout maintenant avec les réseaux sociaux. Après, on va dire, effectivement, la variété est importante. Donc, les aliments apportent chacun des spécificités, que ce soit en termes de vitamines, de fibres, ce qu'on trouve par exemple dans les légumes. Tout ce qui va être féculent, riz, patates, pommes de terre, ça va nous amener de l'énergie. Tout ce qui va être viande, produits laitiers, poissons, œufs, des protéines. Donc, en fait, on a besoin d'avoir cet ensemble pour assurer que notre corps, il ait ce dont il a besoin. Parce que le corps, pour fonctionner, pour développer, pour se construire, ben, il utilise les aliments. Donc le but, ce n'est pas d'avoir une alimentation parfaite, mais de tendre vers cette alimentation qui est du coup une alimentation variée.
Alors, on parle de cette alimentation variée, hein, si importante pour pouvoir être bien dans son corps et dans son esprit. Mais on parle... quelle place finalement doit garder du plaisir de manger dans tout ça? Parce que on avait il y a quelques années en arrière ces slogans publicitaires, manger 5 fruits et légumes par jour. On avait comme ça un peu attention trop de sucre, on avait comme ça un peu des dictates des trends de la bonne santé, mais finalement versus le plaisir de manger dans tout ça, comment on arrive à équilibrer tout ça?
Ben c'est très intéressant comme question, parce que c'est vrai qu'à une époque, on a associé souvent les diététiciennes à la notion de régime. Et puis maintenant, en fait, on prend dans notre profession cette notion de plaisir très à cœur, parce que ça fait partie, c'est un des rôles de l'alimentation, la recherche du plaisir. Après, ce plaisir, c'est vrai qu'on l'a beaucoup justement avec ces aliments qui sont riches en gras et en sucre, parce que finalement, c'est ce que notre corps demande comme source d'énergie, puisque pour le corps, on est toujours au paléolithique. Donc, il veut aller vers les aliments qui sont très riches, dont ceux-là. Et ce qui est important, justement, c'est de ne pas les enlever, mais de les garder. Quand vous regardez la pyramide alimentaire, ils font partie d'une alimentation équilibrée. Donc, le plaisir, il est central. Et c'est souvent ça qu'on va déconstruire auprès des patients, dès le début, de dire, vous pouvez manger du chocolat, qu'il soit noir ou au lait, on s'en fiche. Le but, c'est votre plaisir.
Eh ben ça, c'est quelque chose d'important. Le but, c'est le plaisir. Joël.
Alors, moi, j'ai une grande question à vous poser. Est-ce que vous estimez que votre rôle doit être avant une opération type bypass, type injection que tout le monde connaît, hein, que les stars vantent et tout ça? Moi, j'estime que vous avez une importance qui est capitale au début d'un traitement pour perdre du poids en se faisant prescrire par le médecin un bon de 9, voire plus, pour venir vous voir et de voir si le problème n'est pas de vous faire perdre du poids absolument et rapidement, et aussi d'avoir l'importance nécessaire aussi pour que les gens s'alimentent correctement. Parce que c'est trop facile aujourd'hui d'obtenir ce genre de choses. Dès que vous dépassez les 90 kilos, vous pouvez faire le bypass. Ou dès que, faites une piqûre une fois par mois et vous perdez tant de poids. Pour moi, c'est plus logique qu'on passe vers des personnes comme vous, des professionnels, et que vous analysez déjà la situation de la personne. Là, vous mangez pas mal. Là, les biscuits, faites-vous plaisir. Ou... Qu'est-ce que vous en pensez de ça? D'être la première personne à les voir avant ces choses-là.
Mais merci beaucoup pour cette question, puis aussi ce que vous dites, parce que c'est exactement ce qu'on voudrait en fait. Puis je trouve que c'est un message très important à faire passer. Parce que c'est vrai que maintenant, ces injections, on les a ouvertes au grand public et même les médecins traitants peuvent les prescrire dès qu'il y a une indication. Et effectivement, ça reste un moyen, certes un moyen assez radical, surtout par le bypass. Mais s'il y a déjà, on va dire, des problèmes entre guillemets de base, ça ne va pas les résoudre. Typiquement, il y a des personnes qui font des bypass et qui après reprennent tout leur poids perdu. Parce qu'elles arrivent, donc le bypass, c'est l'estomac qui est rétréci, elles arrivent en fait à ingérer tout au long de la journée assez de calories pour reprendre tout ce poids. Les injections, ce qu'on remarque en fait, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au fil du temps, l'effet, il s'atténue. Donc ça vous fait cette sensation de satiété, mais ça ne dure pas, il faut toujours plus, et à un moment donné, les assurances, elles arrêtent de rembourser. Et donc au final, on se retrouve dans la même problématique de base. Alors que si on voit dès le début, comme vous dites justement, un diététicien qui peut déjà regarder jusqu'où on arrive avec des adaptations en partant de votre quotidien, et ensuite que le bypass, les injections, ce soit le truc en plus pour participer à la perte de poids. Et ça, c'est très important.
Alors, on a l'honneur d'accueillir aujourd'hui Sébastien qui est médecin assistant au Laurier. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Ça fait plaisir de vous avoir ici à Pavillon Nomade. Alors, pour tous ceux qui auraient envie, comme Sébastien, de venir partager un petit moment, n'hésitez pas, c'est tous les jeudis de 15h à 16h30, le live de 15h30 à 16h30. N'ayez pas peur, venez autour de la table, venez échanger. Sébastien, vous aviez une question à poser, on vous écoute.
Oui, déjà merci Jimmy de m'accueillir, c'est très gentil, j'ai beaucoup de plaisir à être ici. Mais j'avais une question pour vous Camille, vous parliez de l'impact des réseaux sociaux avant. Est-ce que ça, dans votre pratique de tous les jours, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement sur la table, le fait de voir des personnalités, des gens qui sont avec un physique athlétique, mince, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez eu l'occasion de discuter avec certaines des personnes que vous suivez?
Alors, disons, la problématique avec cette question, c'est que la majorité des personnes que je suis, en fait, c'est des personnes âgées qui ont souvent plus de 60-70 ans, qui connaissent peu les réseaux. Mais j'avoue que j'ai un intérêt pour ça, et puis c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les jeunes, d'autant que maintenant, on revient finalement, on va dire, à cette mode de la maigreur, qu'on peut voir chez certaines stars. et ça se ressort. Aussi, le problème principal avec les réseaux sociaux, ben, c'est les fausses idées que ça véhicule, et on voit les phénomènes de mode. Là, par exemple, la mode récente, c'était de ne pas manger de glucides, typiquement, ou bien de vraiment surveiller sa glycémie, même si on n'a pas de diabète, et ça... Et ça entraîne justement ces comportements restrictifs. Mais en tout cas, ça a été prouvé, surtout au niveau des jeunes, que le fait d'être face aux réseaux sociaux, face à cette apologie de la maigreur, ça participait à la création de ces troubles alimentaires par rapport à ça. Est-ce que ça répondait à la question ?
Mais merci. Et d'ailleurs, c'est une question que j'ai envie de vous reposer aussi à vous, Sébastien, parce qu'avant de mettre en place ce processus, parce qu'on travaille de manière pluridisciplinaire, hein, on a bien compris comment s'articule la place et votre rôle, Camille, mais avant d'arriver à la contacter, les bénéficiaires en soins, les patients, sont d'abord en contact du médecin. Vous, comment vous réagissez ou comment vous comprenez ou qu'est-ce que vous donnez comme piste de compréhension ou comme soutien avant de peut-être se dire ouais, « c'est pas mon domaine, je donne ça à la diététicienne » parce que j'imagine qu'il y a déjà toute une approche et un début qui se fait avec la rencontre avec le patient.
Oui, alors tout à fait. C'est vrai que en tant que médecin, la difficulté, je pense, c'est de comprendre en fait pourquoi la personne ne souhaite plus s'alimenter ou s'alimente très peu, et donc essayer de partir plutôt sur ces pistes, essayer de comprendre l'histoire du patient avant toute chose, et après du point de vue médical, c'est vrai de voir en fait les implications au niveau du corps, en fait voir qu'est-ce que ça a provoqué cette perte de poids. Et c'est vrai que nous on travaille en collaboration avec Camille aussi, qui nous donne plusieurs pistes en fait afin d'aider au mieux les patients. Ça rentre dans la prise en charge globale, pluridisciplinaire des patients. Et personnellement, moi, je trouve ça très important. Ouais.
Merci. Jean-Pierre.
Non, mais bon, je reviens sur les médicaments qui font... On a tout le temps faim, quoi. J'ai pas eu un problème de dénutrition, mais on m'a pas averti. Et pendant 3 semaines d'hospitalisation, j'ai pris 15 kilos, puis je lutte encore pour les perdre 5 ans après. Mais on a tout le temps faim. Tout le temps faim, c'est horrible. C'est vraiment, mais c'est une torture. Je sais pas, il faut faire quelque chose. Il y a pas quelque chose qui peut nous couper la faim quand c'est comme ça. Mais c'est horrible. Alors peut-être c'est seulement dans des cas, à ce moment-là, j'avais beaucoup de kétiapine, un truc comme ça. Ouais, kétiapine. C'est ça qui me faisait que j'avais tout le temps faim. Après, on a diminué les doses, c'était moins présent. Mais quand on a tout le temps faim comme ça, c'est horrible, quoi.
Mmh. Oui, c'est vrai. Et puis certains médicaments provoquent un peu cet effet de faim. Après, c'est vrai que certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à ces effets-là, ces effets secondaires un peu qu'on peut ressentir. Mais là, c'est aussi l'importance de nous en tant que médecins de suivre les patients, de les écouter et puis de les rediriger vers après peut-être des consultations spécialisées afin de pouvoir trouver des solutions pour pallier en fait à ça et peut-être trouver des manières de s'alimenter quand on a ses fringales d'une manière à on va dire saine, pour essayer d'éviter la prise de poids trop importante.
Ouais. C'est vrai que moi, j'ai toujours entendu qu'on pouvait imputer 10 kilos à la médication et que le reste était finalement des habitudes finalement à déconstruire et que ce n'est pas si évident que ça, mais on sait qu'on a certaines classes de médicaments qui font effectivement prendre du poids. Après, on ne peut pas tout imputer à la médication. Il y a aussi finalement le lien qu'on met autour à cette appétence que ça peut générer, mais quand la travailler, c'est vrai que c'est un combat au quotidien. Joël.
Alors, j'ai vécu la même chose que Jean-Pierre. Donc, j'ai pris de la kétapine aussi, donc sa neuroleptique qui est vraiment absolument extraordinaire. Hein. On est bien et tout. Mais 25 kilos. Mmh. 25 kilos mmh. en quelques mois de prise de ce médicament. Et c'est vrai que il y a tant, plus de 90 kilos. Je me suis dit, mon Dieu, mais il faut que je fasse quelque chose. Je commençais. Il n'y avait pas que la prise de poids, il y avait aussi les douleurs dans le dos, dans les jambes, dans toutes sortes de douleurs. Et on m'a dit, tu as dépassé les 90 kilos, c'est bon, tu peux faire le bypass. Je dis, non, attends, on ne va pas me charcuter l'estomac. Après, on m'a dit, non, mais tu sais, mais non, tu as le, pour dire un nom, l'Ozempic. Après, c'est ressorti d'autres trucs. Et puis, je suis allée voir ma généraliste, parce que moi, je me dis, je ne vais quand même pas m'empoisonner ou me faire charcuter pour ça. Et c'est là qu'elle m'a fait deux fois... de bons, de 9 séances chez une diététicienne. Et là, j'ai perdu 15 kilos en une année. Ça a mis une année pour les perdre, mais j'ai perdu 15 kilos. Et je me sens beaucoup mieux. C'est pour ça qu'avant de proposer ce genre de choses, d'aller voir une personne professionnelle, une diététicienne, pour pouvoir perdre ce poids. Mais c'est vrai que la kétapine, waouh, c'est quand même rude, hein. quand ouais. on se met sur la balance.
Mais vous avez raison, et là vous mettez en avant quelque chose qui malheureusement aujourd'hui, j'en parle souvent des fois avec des patients ou même des amis, aujourd'hui malheureusement les neurosciences, on pourrait dire, ou les traitements, on n'a pas encore trouvé, alors on n'a plus les mêmes traitements qu'il y a 20, 30, 50 ans en arrière, hein, où il y avait d'autres effets secondaires très très importants, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore trouvé une médication qui permette d'avoir ce bénéfice que vous aviez ressenti et qui n'a pas les effets secondaires soit de prise de poids ou d'autres effets secondaires. Hein. On ne va pas tous les citer, mais vu qu'on est, on parle du poids, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile parce que de se dire, finalement, est-ce que je prends un traitement qui va agir sur des prodromes, des symptômes, des choses qui ont besoin d'être contenues et calmées, mais en contrepartie, il y aura d'autres problématiques. Des fois, c'est difficile de se dire... Et je comprends cette lutte quand même peu évidente, parce qu'on se dit, bah mince, j'ai quelque chose qui fonctionne, mais quand je me regarde dans le miroir, je ne me reconnais plus. Et finalement, on a comme ça une espèce de distorsion de ce qu'on vit. Hein. Sébastien ?
Ouais, après, l'importance pour moi, je pense que effectivement, c'est quelque chose que, alors en tant que médecin, il faut écouter ses patients. Et en tant que patient, justement, il faut en parler. Dès qu'on voit justement que le médicament a un bon effet sur notre psychisme, c'est bien. Mais si ça a un effet sur notre corps, ça peut être aussi délétère pour le futur. Donc c'est vraiment important de pouvoir en parler, que ce soit à ses médecins, aux personnes qui nous suivent, à différents thérapeutes. Mais voilà, de mettre des mots sur ces choses qui peuvent arriver, c'est vraiment primordial.
Merci pour cet échange. Shadia, on vous écoute.
Je voulais vous demander justement les idées à déconstruire, parce que d'un autre côté, et ça reprend aussi des fois les conseils qu'on peut trouver un peu partout, que l'industriel n'est pas bon, mais d'un autre côté, si on n'a pas... Parce qu'on met en avant énormément, par exemple, la cuisine fait soi-même, mais au final, qu'est-ce que là-dedans est le meilleur ? Parce qu'au final, on a tellement d'informations que... Est-ce qu'il y a vraiment des... Enfin, ouais, des... Une solution simple de s'alimenter, si on peut s'alimenter par exemple de la même façon tout le temps, plus ou moins avec quelques... Ou est-ce que...
Enfin, voilà. Après, les produits industriels, enfin, le problème qu'on a souvent avec ces produits-là, c'est surtout la quantité de sel. Il y avait une enquête qui avait été menée en Suisse pour voir qu'est-ce que c'était les vrais problèmes, on va dire, en alimentation dans la population suisse. Si ça peut donner déjà une piste sur quoi agir, ce qui est ressorti, c'est la consommation de sel qui est trop grande et puis le manque d'apport de fibres. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on va vers se cuisiner soi-même. Ça permet aussi de diminuer cette quantité de sel. Ça permet aussi d'avoir moins aussi ces graisses transformées qui peuvent aussi être néfastes. Après, bien évidemment, il faut aussi être réaliste. Puis maintenant, on est dans une société où on a moins le temps de cuisiner. Par rapport à avant, où il y avait beaucoup de femmes au foyer qui cuisinaient, maintenant que les femmes sont parties au travail, il n'y a pas vraiment eu une... reprise, une considération de ça qui fait que les gens n'ont plus le temps et que beaucoup de personnes mangent industriellement. Donc quand on prend des repas industriels, déjà c'est comparer en fait. Regardez les étiquettes, regardez le nombre d'ingrédients. S'il y a des ingrédients qu'on voit, non, on ne comprend pas ce que c'est pas très bon signe. Si par contre on voit qu'il y a une liste d'ingrédients plus petite qu'une autre, déjà c'est bon signe. De regarder la quantité de sel, prendre ce qu'il y a de moins sel. Et aussi cuisiner souvent ce qui fait frein, c'est le fait de le faire, mais on peut faire des repas sains très simples. En fait, un repas sain, c'est quoi ? C'est une source de protéines, une source d'énergie, donc les féculents, une source de légumes. Donc, c'est-à-dire que le soir, vous n'arrivez pas à cuisiner. Vous prenez, par exemple, du pain, des carottes, de la viande froide, typiquement de préférence roast beef, c'est souvent un peu moins salé, mais après, celle qui vous fait plaisir. Et là, vous avez déjà un repas sain. Donc, on peut trouver des solutions. L'autre solution aussi qu'on propose souvent, c'est le batch cooking. C'est le fait de cuisiner à l'avance. Vous faites un repas un soir, vous faites une grande quantité. Il suffit d'avoir le congélateur et ensuite, on reprend. Ça peut être quelques astuces par rapport à ça.
Oui, vous avez raison, Rabi. Alors, le temps qu'on vous équipe du micro, on va passer l'autre. Un Camille qui pourra répondre, on vous écoutera.
Malheureusement, j'ai l'impression que manger bien, ça peut être aussi un luxe, parce que la nourriture industrielle, ça coûte quand même bien moins cher. Quand vous voyez, je ne sais pas, le paquet de cookies, il coûte moins cher que le kilo de fruits. Voilà, donc il y a aussi la question de l'accessibilité économique et puis de la disponibilité de la nourriture industrielle. Donc voilà,
c'est une question. Là, vous mettez un point important sur le coût. On parlait tout à l'heure, c'est trop salé, mais Moi, j'avais vu une émission où simplement une barquette de jambon, on pourrait dire jambon, il y avait l'équivalent de 60 morceaux de sucre dedans. Moi, je suis tombé effaré de voir ça. Et en même temps, c'est toujours de se dire, oui, alors bien sûr, peut-être que l'industriel est moins cher, mais est-ce que c'est finalement pas une idée préconçue? Parce que quand on va acheter finalement dans les épiceries ou chez le producteur, alors certes, des fois, ce sera un petit peu plus cher les 100 grammes ou au kilo, mais dans la balance finalement de ce qui va nous coûter plus cher d'avoir des maladies cardiovasculaires ou des traitements à prendre pour perdre du poids, finalement, sur l'échelle d'une vie, j'ai envie de dire, peut-être ça nous coûte moins cher d'aller chez le propriétaire et d'aller un petit peu plus souvent mettre un petit peu plus dans finalement du porte-monnaie que finalement cette fausse croyance de dire bah, ça coûte moins cher, donc je vais pouvoir mieux vivre. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment ça, Camille.
Oui, et puis après, je me pose la question aussi si c'est vraiment plus cher. Typiquement, quand on achète ces plats tout faits qu'on trouve, au final, on revient toujours à du plus cher que d'avoir acheté en grande quantité, par exemple, des légumes, des pâtes, de la viande. Après, c'est sûr qu'il faut gérer ce stock de grande quantité. En tout cas, dans mon expérience d'étudiante, je m'étais rendu compte que j'économisais beaucoup plus d'argent en faisant moi-même qu'en achetant des repas tout faits.
Bah merci, on arrive gentiment à la fin de notre échange. Alors, il y a Nicole. Alors, on va donner le micro à Nicole pour la dernière question. Et après, on passera avec un petit moment musical.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Nicole.
Merci. Moi, j'ai souvent un grand souci. Quand je sors d'ici, je rentre à la maison. J'ai un blocage total de faire la cuisine. Alors, je me fais livrer les repas par le CMU. C'est juste CMS. Et en fait, moi, à la base, en fait, les plats, en fait, ils sont pas bonnes. Alors, je mange pas, je le bouffe. Il y a souvent des desserts et c'est toujours tous des desserts avec des produits synthétiques. Beaucoup, beaucoup de desserts, tous pas faits maison. Chaque jour des desserts, j'ai jamais compris pourquoi chaque jour des desserts. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que qu'est-ce que je pourrais faire? Et je dois le mettre dans la micro-ondes. Est-ce que c'est prouvé que la nourriture qui est régénérée dans la micro-ondes perd ses vitamines et des structures, sa structure?
Non, au contraire, même le fait de réchauffer au micro-ondes, c'est souvent mieux par rapport à ça. Le seul risque, c'est si vous faites chauffer justement dans des récipients en plastique. On sait que des fois, il peut y avoir des micro-particules qui passent à ceci. Mais le micro-ondes est une bonne méthode. Après, tout ce qui est livraison, je crois qu'il peut-être il existe aussi d'autres sociétés de livraison. J'avais eu entendu du côté de Martigny, mais je ne pourrais pas vous en dire plus. Après, pourquoi ils mettent tout le temps des desserts? Donc, il faut comprendre que c'est... Les entreprises qui livrent, en fait, elles suivent des quartiers, des cahiers des charges. Et souvent, l'intérêt du dessert, au-delà du plaisir, c'est que ça va être la plupart du temps des produits laitiers. Donc ça fait qu'on peut aussi déjà avoir un apport intéressant en protéines, en énergie et dans certaines vitamines qu'on trouve dans les produits laitiers. Je pense que ça peut être aussi une piste de pourquoi ils mettent autant de desserts. Mais après, de nouveau, à vous de voir. Comme je disais, on peut faire des repas sains très simples, que ce soit avec justement du pain ou bien juste vous cuisez des pâtes, vous prenez du fromage, des tomates cerises, ce genre de choses.
Le riz cantonné aussi, c'est
oui,
une bonne solution.
Par exemple. Et aussi ce qu'on suggère souvent au niveau des légumes, parce que c'est souvent ça le frein des gens, c'est les légumes qui demandent d'être lavés, coupés, préparés. En fait, on va leur dire, prenez des légumes surgelés. Les légumes qu'on trouve congelés au magasin, qui a juste à chauffer dans l'eau, ils sont très bien. Le fait qu'ils soient congelés même très tôt fait qu'ils conservent mieux leurs vitamines. Donc prenez-les, de préférence pas épicés, assaisonnés, puis vous assaisonnez vous-même. Ça, c'est aussi une piste justement pour ajouter des légumes à son alimentation.
Merci. Et je voulais dire encore une chose. C'était bien Socrate qui disait... que le premier médicament, c'est notre alimentation.
C'est vrai. Joël, alors la dernière DDR.
Alors, pour en revenir des repas du CMS, j'ai travaillé dans un home pour personnes âgées. Et malheureusement, ce sont les homes qui fabriquent la plupart des temps les repas, même pour des gens comme vous, Nicole, qui avaient des belles dents et qui n'êtes pas une personne âgée. Peut-être changer aussi de fournisseur et de voir avec d'autres fournisseurs comme des restaurants de collectivité pour les jeunes qui ne surcuisent pas les aliments et qui rendent l'aliment quand même un peu plus un peu moins cuit, un peu moins adapté pour les personnes âgées. Voilà.
Ben merci. En tout cas, on comprend bien à travers notre discussion, l'alimentation ne se résume finalement pas à une liste d'aliments autorisés ou interdits. Elle touche notre corps, mais aussi nos émotions, à notre histoire, à notre environnement, à notre quotidien. Un grand merci à notre invitée du jour, Camille Bovier, d'avoir accepté de venir et de parler de son métier, de son parcours surtout, et de cet échange. Alors peut-être que la prochaine fois que nous allons nous mettre à table, nous regarderons notre assiette un petit peu différemment, parce que finalement, bien manger, ce n'est pas forcément manger parfaitement, c'est aussi prendre soin de soi et écouter ses besoins et conserver le plaisir de partager un bon repas. On va faire une petite pause musicale. Flore, vous aviez envie de dédicacer une chanson de Céline Dion qui s'intitule HS. Pour qui faites-vous cette dédicace?
Ce sera pour ma grand-maman maternelle avec qui j'ai vécu quelques années pendant mon enfance. Ben, qui rejoint un peu Camille, hein, qui nous soignait avec des tisanes qu'elle cultivait elle-même, des feuilles ou des plantes. Donc voilà, et qui a décidé de partir le jour de mon anniversaire. Donc, qui m'a beaucoup appris et une personne extraordinaire.
What's left to say? These prayers aren't working anymore. Every way shut down in flames. What's left to do with these broken pieces on the floor? I'm losing my voice, calling on you, 'cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke, watching all these dreams go up in smoke. Let beauty come you here, 'cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke, watching all these dreams go up in smoke. Let beauty come
tuyaux.
On va rester sur le thème de l'alimentation. J'ai pas fait exprès. Merci Camille pour les bons conseils. Et oui, c'est la saison des courgettes, poivrons, tomates, aubergines et concombres. Les étals des marchés sont toutes colorées de ces fabuleux légumes et nous donnent une envie, par ces chaleurs, de les consommer, soit en salade, soit en ratatouille ou la peperonata. C'est essentiellement fait avec des poivrons de toutes les couleurs ou alors en brochette sur le grill. Les méthodes de conservation sont toujours les mêmes. Congelées pour la plupart de ces légumes en bocaux, pickles au vinaigre. Pour les tomates, faites une bonne passata ou du coulis à utiliser pour les pâtes ou la bolognaise. N'oubliez pas de stériliser vos bocaux et bouteilles. Je ne le répéterai pas assez. Et il ne faut pas oublier non plus les herbes aromatiques lors de vos préparations. Le basilic, le thym, le romarin, la sauge, etc. que vous trouvez frais dans les étalages ou tout simplement chez une connaissance qui vous en donne en libre service. On a tous un ami qui a un bel arbuste de romarin ou de thym et puis qui vous dit, viens chercher quelques branches pour toi, pour faire tes sauces. C'est des petits arbres et quelques brins, ça ne vous coûte rien. Et en plus, c'est super sain. Dernièrement, je suis tombée sur une annonce Facebook extraordinaire. Cela se trouve à la route de la Servanne 36 à B. Si vous aidez au tri des légumes, des fruits et des fruits, le samedi de 11h30 à 14h, tout ce qu'il y a à disposition est accessible gratuitement avant ceux qui se servent à la fin de la journée. Alors notez bien sur votre agenda, chers amis de la région, ça en vaut vraiment la peine. Je répète l'adresse, c'est route de la Servanne, 36 à B. Donc c'est une association pour les oiseaux qui reçoivent plein de légumes gratuitement. Ils les trient pour les animaux et tout ce qui est bien pour les humains et tout, vous partez avec vos cornets remplis de légumes. C'est gratuit et en plus vous leur rendez service en faisant le tri. Je termine cette émission avec une bonne recette toute simple de ratatouille. Alors, vous avez besoin d'un gros oignon, 3 gousses d'ail, un poivron rouge, un poivron jaune, un poivron vert, tout ça émincé. Vous les faites revenir dans de l'huile d'olive. Si possible, utilisez l'huile d'olive pour la cuisson, car l'huile extra vierge, si vous la chauffez trop, elle devient rance. C'est une huile qui est tellement... qui est tellement bonne. Utilisez-la à froid pour vos salades, pour garnir les brusquettes et toutes ces choses-là. Vous laissez cuire bien 25 minutes à feu doux avec les herbettes, le sel et le poivre. Donc les herbettes, vous allez utiliser un brin de thym, du basilic ciselé et un brin de romarin. Ensuite, vous allez préparer une belle aubergine, 2 courgettes, et 3 belles tomates. Donc, vous allez les couper en petits dés et vous allez les ajouter à la préparation. Laissez cuire encore 10 minutes, goûtez et rectifiez l'assaisonnement, sel et poivre. Sinon, je vous souhaite une très belle soirée et rendez-vous jeudi prochain. Merci.
Merci Joël pour cette magnifique rubrique. Alors, pour ceux qui nous ont écoutés autour de la table, ou ceux qui nous écoutent ou que nous réécouterons en rediffusion, je ne serais pas inintéressé pour celui qui a envie de tester cette recette, de la pratiquer et de venir, non pas nous la faire goûter parce qu'on n'aura pas la possibilité ici à la radio, mais de venir nous en parler parce que ça pourrait être sympa d'avoir d'un jour quelqu'un qui nous dit « Tiens, moi, grâce à Joe les bons tuyaux, j'ai fait cette recette-là et puis je viens partager avec vous finalement comment je m'en suis sorti ou comment ça s'est passé pour moi. Donc, avis aux amateurs, pour ceux qui nous entendent, si vous avez envie de venir un jour après, vous retrouvez toutes nos émissions en rediffusion sur pavillonnomade.ch, on pourrait venir en discuter. Joël.
Oui, et la proposition est ouverte de mettre la recette en podcast. Pourquoi pas, si vous êtes d'accord.
Alors, je ne sais pas si on pourra la mettre directement sur le site en podcast, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que heureusement, la technologie aujourd'hui nous permet d'aller en avant, en arrière, de mettre sur pause, de réécrire un petit coup. En tout cas, elle sera à vie sur le site de pavillonnomade.ch pour retrouver les ingrédients et pouvoir la mettre en cuisson, en tout cas, la pratiquer. Alors, j'ai vu Camille, vu qu'on est toujours en lien avec la nutrition et le thème et notre invité du jour, cuisson, huile d'olive, huile tournesol, huile de colza. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre huile je crois que j'ai presque tout cité. Ou pas,
huile d'arachide.
Huile de raisin, oui. L'huile d'arachide, bien sûr. Finalement, c'est quoi celle qui, quand on veut cuisiner, serait la plus appropriée, s'il y en a une ou pas?
Alors, au niveau des recommandations, celle qu'on conseille, c'est l'huile de colza whole. Donc hol, ça veut dire high olénic, c'est une sorte de colza qui a été sélectionnée pour que justement elle supporte bien la chaleur et pour pas qu'elle fasse des dépôts cancérigènes en fait. C'est ce qui arrive quand on chauffe trop d'huile. Comme le disait justement Joël, c'est bien de prendre, si on veut utiliser l'huile d'olive spéciale pour cuisson, et effectivement de garder l'huile extra vierge pour les salades, parce que même si l'huile d'olive c'est une huile qui supporte assez bien la chaleur, en fait on perd tout ce qui est intéressant. Les acides gras ils sont modifiés lors de la cuisson. Et c'est dommage. Tandis que l'huile d'olive, pour la cuisson, elle est plus solide. Mais vraiment, ce qu'on recommande, c'est l'huile de colza Hol, au-delà et des autres.
Éviter aussi les huiles saturées, qui saturent, genre graisse de coco, pour en citer une qui est très célèbre, ou la bourguignonne. Utilisez plutôt l'huile de patpan raisin. Déjà, elle sent moins mauvais, et en plus, elle sature beaucoup moins. Voilà.
Et que pensez-vous de la graisse de bœuf ? Parce qu'on ne l'a pas citée, mais moi qui suis quand même... J'ai un pied en Belgique, hein, pour ceux qui me connaissent, ils le savent bien pourquoi. Moi, les frites belges, c'est deux cuissons et à la graisse de bœuf. Qu'est-ce qu'on peut dire de la graisse de bœuf ? Vous connaissez un petit peu ou pas ?
Oui, j'ai eu goûté à Paléo les fameuses frites à la graisse de bœuf. Je n'ai pas trop apprécié personnellement, mais chacun ses goûts. Alors effectivement, tout ce qui va être, c'est graisse animale. Donc on est vraiment sur des acides gras qui ne sont pas intéressants d'un point de vue nutritionnel. Au contraire, c'est ça qui... Le fait d'en utiliser trop peut être néfaste au niveau cardiovasculaire parce qu'on sait qu'on doit avoir justement des acides gras de qualité pour limiter ce risque cardiovasculaire. Donc si vous utilisez la graisse de bœuf tout le temps, vous êtes vraiment à risque. C'est pour ça qu'on va vraiment conseiller les huiles végétales.
Jean-Pierre ?
Oui, juste une question. Ces graisses, c'est mauvais quand elles sont cuites ou parce que quand je mange une entrecôte, il faut qu'il y ait du gras. Mais je ne sais pas, ce gras-là, il va ?
Oui, alors, de nouveau, en nutrition, il n'y a pas d'interdit, hein, on s'entend. Dans le sens, le gras de l'entrecôte, voilà, vous avez mangé votre viande, il y a un peu de gras dessus, c'est pas ça qui va causer un problème, c'est vraiment le fait qu'on va utiliser comme source de cuisson tout le temps cette graisse en grande quantité, surtout d'autant plus quand c'est frit, on sait que ça fait ses réactions à des acides gras qui peuvent devenir d'autant plus néfastes.
J'ai déjà été coaché par une nutritionniste, j'utilise que l'huile de colza Hull.
Oui,
on la trouve, elle est dans les bidons rouges, là, à la COP. Elle n'est même pas spécialement chère, mais elle tient bien. Je fais mes œufs tous les matins. D'ailleurs, j'ai le droit de faire tous les matins 4 œufs.
Oui, ça va ? En fait, tout dépend de l'équilibre sur la journée.
Manger que des œufs, non ?
Alors justement, c'est de nouveau de varier. Après, il y a eu pendant longtemps la croyance, on pensait que le cholestérol, ça venait du cholestérol de l'œuf. C'est pour ça qu'on l'interdisait. Mais en fait, on s'est rendu compte que le cholestérol alimentaire, c'est pas ça qui allait augmenter notre cholestérol sanguin. C'est plutôt justement cet équilibre en acides gras saturés, insaturés à ce niveau-là. Donc, si vous voulez manger des œufs, mangez-en en soi. Il n'y a pas d'interdit et tout dépend comment vous équilibrez sur la journée.
D'ailleurs, je me retourne vers notre médecin Sébastien, parce que moi, j'ai toujours entendu que finalement, cette histoire d'œuf, qu'au contraire, il fallait manger un œuf le matin, parce qu'on arrivait très vite à chanter le corps sur ce taux, et que finalement, on assimilait moins après, parce qu'on avait mangé un œuf le matin. Est-ce que c'est vrai, ça ?
Alors, sincèrement, je n'aurais pas la réponse à cette question.
Bon, c'est pas grave. Hein, ça. Joël ?
Oui, c'est vrai que c'est très fortement conseillé de manger un œuf le matin. Pourquoi petit-déj, on n'en a pas le droit ? Parce que j'étais hospitalisée il n'y a pas longtemps, puis j'aurais bien aimé un petit œuf dur.
Alors oui, alors on a beau avoir le label fourchette verte ici à Malévo, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas des œufs durs ici ? Alors c'est comme Sébastien, je n'aurai pas la réponse. Mais en tout cas, on peut, comme vous avez dit, je pense qu'il faut retenir, c'est manger avec parcimonie, faire attention à ce qu'on mange et puis de se faire plaisir. Sébastien ?
Est-ce que l'apport du coup protéinique de l'œuf le matin permettrait de couper certaines fringales qu'on pourrait avoir en milieu de matinée et qui du coup seraient plutôt délétères ?
Disons que c'est vrai quand on va aller vers des produits qui contiennent plus de protéines ou de matières grasses, ça a tendance à être plus satiétogène sur le long terme. Donc ça peut être une piste, mais de nouveau, il n'y a pas de contre-indication à manger des œufs ou pas le matin. Certains font protéinés, pourquoi pas, vous préférez sucré, faites sucré, en gros.
Moi, personnellement, j'aime bien les œufs le matin aussi.
Bon, en parlant de manger et tout ça, vu qu'on est, on est un peu pris par le temps, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde directement, sans passer de musique, le thème du voyage. Parce que finalement, quand on parle de nourriture, de Pâques culinaires, on ne peut pas ne pas penser au voyage. Alors, qui nous avait proposé ce thème du voyage aujourd'hui ? Eh bien oui, il est avec nous, il est là, Max. Max,
Qui...
Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue à Pavillon Nomade, c'est merci. Votre première fois.
Oui.
Bien, ben merci. Comment est-ce que vous passez un bon moment?
Ça va.
Ah, parce qu'il y avait trop de conseils alimentaires qui vous ont déplu aussi, c'est ça?
Voilà.
Ah, voilà, je le savais. Alors, pourquoi parler du voyage aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous nous proposez ce thème?
Parce que j'ai toujours bien aimé bouger, surtout en moto, avec un ou deux copains. On s'est fait, bon, on est plutôt spécialiste des Grands Prix, quoi, spécialiste spectateur. Mais on s'est fait quasiment tous les Grands Prix d'Europe. Voilà quoi.
Alors, dans tous les Grands Prix d'Europe que vous avez fait, quel est le pays ou le voyage qui vous a le plus marqué et pourquoi?
Bon, j'ai été plusieurs fois en France, au Castellet, à Manicourt. Mais j'ai été aussi en Hollande, à Assen. J'ai été en Tchéquie, à Brno, en Autriche, Salzbourg.
Alors, on voit que vous avez vraiment fait tout et vous êtes un fidèle de tous ces circuits, mais c'est lequel qui vous a le plus marqué?
Oui, je pense que c'est quand même... le Castellet, parce qu'on est au bord de la mer, quoi, à 15 km de la mer. Alors donc, la journée, on va regarder les courses, puis après, le soir, on va manger des moules au bord de mer, des choses comme ça. Puis dans les autres pays, bon, par exemple en Hollande, ben, on mange des trucs de chez eux, quoi. Alors on découvre plein de nourritures différentes, quoi.
Eh ben merci. Et vous êtes donc fan de moto, si j'ai bien compris. Vous roulez sur quel modèle et sur quel cylindré? Je ne sais pas si c'est ça, oui. Si on dit ça comme ça. Oui, parce que moi, je ne suis pas un adepte de la moto.
C'est une Yamaha R1 2003.
Yamaha R1 de 2003. Alors,
170 chevaux.
Ça, elle ressemble à quoi? Si vous deviez nous la décrire, elle ressemblerait à quoi?
C'est une hypersport.
Alors, une hypersport, ça veut dire déjà que ça va vite, à mon avis. Mais est-ce que c'est une grosse moto ou...
Oui, c'est une moto comme les motos de Grand Prix.
Comme les motos de Grand Prix. Comme
GP.
Une GP ZXR ou je ne sais pas, moi je ne connais pas trop. Mais Sébastien a pris le micro, ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes vous-même, Sébastien, adepte et fan de la moto? Vous pratiquez-vous aussi la moto?
Alors non, moi je ne pratique pas la moto. J'ai toujours eu un peu peur de la moto, en réalité. Mais j'aime bien regarder ça, j'aime bien regarder les grands prix de moto. Et du coup, j'avais une question par rapport à ça, vu que vous avez visité de nombreux circuits. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de rouler sur des circuits?
Oui, j'ai roulé à l'époque sur le circuit du Castellet en France. Il venait vieillissant, le circuit. C'est Philippe Coulant, un Neuchâtelois, qui organisait un week-end. Moi, j'avais été deux années de fil. Et puis après, ben, le circuit était tellement hors norme qu'il a organisé au circuit de Barcelone, okay. À Montmélo. Alors ben, j'ai été rouler là-bas à Montmélo, circuit du championnat du monde.
Et puis rouler sur les routes ici ou en circuit, c'est quoi le mieux?
C'est d'aller rouler en France, les amendes sont moins chères.
Les amendes sont moins chères. Mais est-ce qu'en Allemagne, d'ailleurs, parce qu'en Allemagne, je ne sais pas si ça existe encore, mais est-ce qu'on a encore des tronçons de piste?
Oui, oui.
Où y a pas... Ah oui, vous avez l'air de connaître, là, vous êtes fait plaisir à mon avis oui, aussi, Max.
J'étais monté à Assen.
Ah oui.
En Hollande, alors on a traversé l'Allemagne.
Et là c'est nos limites ou quand même avec...
Il y a des endroits qui sont limités, mais autrement, c'est en dessous de 200.
Ah, quand même, ouais.
C'est une partie du réseau, ouais.
Ouais. Rabhi.
C'est une partie du réseau qui s'appelle les autobahns.
Ouais.
C'est pas tout le réseau autoroutier allemand qui est où on peut rouler à ces vitesses illimitées. Voilà. Mais justement, il aborde le sujet de la moto et du voyage. La moto, c'est vraiment le voyage parce que la moto, vous voyez le paysage différemment de la voiture. C'est vraiment c'est indissociable. La moto,
l'odeur.
On a envie de certains aiment la vitesse, mais on a envie de beaucoup de. On a plutôt envie de beaucoup de voyager avec la moto parce que c'est un espace de liberté. Vous arrivez à concilier les deux finalement et l'attrait pour la vitesse parce que vous allez voir les circuits. Puis vous y allez en moto aussi par contre?
Oui, quasiment tout le temps j'ai été. Quasiment tout le temps.
D'accord, donc vous associez les deux, à la fois le goût pour la performance, la vitesse, voilà. Et en même temps, voilà. Surtout qu'en plus, vous avez une moto de compétition, vous donc, voyagez avec aussi.
Oui, ben, j'ai fait toute l'Europe comme ça.
Il va faire les courses avec, il fait tout avec apparemment. Et Rabi, vous aussi, vous avez l'air
d'être... Sauf acheter le pain le matin.
Sauf acheter le pain le matin, oui. Vous avez l'air d'être adepte aussi. Qu'est-ce que vous montez sur quelle monture ?
Pour l'instant, je suis limité au niveau des cylindrées à 35 kW. Donc, je n'ai pas encore la possibilité d'aller au-delà. Mais je suis sur une 750 Honda 750 Hornet. Voilà, c'est un petit...
Ça marche déjà bien.
Bah, l'avantage de Honda, c'est la fiabilité. C'est incroyable, Honda.
Honda, c'est la fiabilité. Alors ça, j'espère que c'est vrai. Je ne sais pas si c'est une réalité.
C'est les japonaises en général.
C'est vrai, ouais. Les japonaises, on peut compter dessus.
Oui.
Bon. D'ailleurs, on a quand même des hommes autour de la table qui se sont exprimés sur la moto. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à la gente masculine. Qui, autour de la table, mesdames, roule en moto ? Joël ?
Moi, j'ai eu un scooter pendant quelques années. Mon plus grand voyage, c'était monter Estavayer le lac sur les petites routes. Je trouvais ça génial. Même si j'avais le droit d'aller sur l'autoroute, mais bon, moi, je trouve que c'est quand même assez malheureux parce que mon grand frère avait une moto, une grosse cylindrée, de se taper que de l'autoroute. Je trouve que quand on voit ces rassemblements et tout ça, qui font des petits cols, qui vont sur les petites routes et tout, en tout cas, mon grand frère me dit c'est quand même nettement plus sympa que de faire que de l'autoroute. Je pense que Jean-Pierre peut nous en parler parce que des cols, il en a fait passablement. Et ben voilà.
Et je crois que je suis un peu devin. Vous avez fait, il me semble, la route des Grandes Alpes, ou pas ?
Oui, il y a l'autocollant sur mon calepin, là.
Comme oui, j'ai un peu triché, Jean-Pierre, c'est vrai.
Télégraphe, Galibier. J'ai fait aussi la route la plus haute d'Europe. Ce n'est pas le col le plus haut, hein, c'est la route la plus haute, le col de la Bonnette. Et la route, elle monte à 2800, je crois, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus maintenant, mais c'est la route la plus haute d'Europe.
Mais qu'est-ce qui est aussi grisant de rouler en moto ? Parce qu'on est harnaché à du cuir, à des protections qui nous serrent quand même, qui nous tiennent chaud. On a un casque qui est fermé avec certainement de la buée dedans. Mais qu'est-ce qui fait qu'on puisse prendre autant de plaisir en plein cagnard comme ça, à faire des kilomètres, à avoir mal au dos, à avoir des crampes ? Je vois Rabi sourire. Je vais lui laisser l'honneur de répondre en premier.
Bah, déjà, toutes les motos ne sont pas inconfortables. Il y a des motos qui sont des routières, où on est quand même beaucoup mieux. Il y a des modèles de BMW, bon, ce qu'on appelle des trails, voilà, où on est, voilà, l'assise est bien plus confortable, où on peut avoir une bagagerie avec soi. Donc, il y a des modèles adaptés au voyage. Puis la moto, ce qui est grisant, malgré tout l'équipement que vous décrivez, il y a une sensation quand même de liberté. Il y a quand même des sensations quand même bien différentes de celles de la voiture. Il y a le bruit, il y a les vibrations, il y a du vent malgré tout. Et puis il y a un rapport avec la moto où c'est presque quelque chose de... Non, on a l'impression d'être sur son cheval. Il y a quelque chose de particulier dans la moto. Donc il y a un rapport avec sa moto qui est presque charnel. Il y a quelque chose.
Et est-ce qu'il y a aussi le fait de reconnaître personne ?
En Harley-Davidson ? Mais voilà. Ça, il faut être en Harley-Davidson, par contre. Non, mais par contre, il y a un truc qui est spécifique à la Suisse et qui est une particularité mondiale, c'est qu'en Suisse, on peut conduire une moto sans avoir le permis. Il y a un permis provisoire qu'on peut demander. Voilà, on n'a pas obligé de passer l'examen. Il y a la possibilité d'avoir un permis provisoire et d'acheter une moto, celle qu'on veut, bah, limitée au départ à 35 km. Mais après, on peut rouler, se faire la main et ensuite, on passe l'examen. Donc, il y a un minimum de 3000 km à faire. Mais c'est une particularité mondiale où on peut conduire même sans avoir le permis.
Mais on doit quand même faire le code de la route.
Oui.
Ah,
oui,
parce
oui.
que je dis ça pour tous les jeunes qui nous écouteraient, tous ceux qui nous disent « Ah, je peux prendre une moto et partir avec tout ça ». Non, non.
Oui, c'est vrai, il y a bien cette précision.
Qu'il y a quand même, vous devez faire les cours de Saint-Maritain, vous devez faire le code de la route, de circulation. Sinon, c'est, alors, les amendes risquent d'être plus chères, même que celles que, me semble-t-il, vous avez eues, Max. Nicole.
Mon ex-partenaire de 8 ans, en fait, le papa de ma fille, lui, il avait une moto, une BMW série 5, une toute vieille. Et en fait, je me rappelle quand j'étais enceinte, même assez, ce qu'on dit, tardif, vers la fin, vers la fin, j'étais dessus et c'était simplement magnifique parce que cette BMW série 5 qui avait plus que 25 ans, c'était comme un canapé. Et en fait, elle faisait un son comme un chat heureux. Et en fait, il n'y avait aucune vibration négative. Après, on est parti sur la BMW pour ses 40 ans. On s'est offert une BMW 1100. Ça, c'était magnifique. On pouvait faire des longues distances. Et parce qu'on n'avait pas beaucoup de congés, nos sorties, ils étaient descendre... par la vallée derrière, de partir de Sion, partir ici, la vallée derrière pour descendre sur Evian, aller manger quelque chose. Désolée, je ne connais pas le nom de la vallée. Super beau. Et c'était super. Et à la fin, elle a fini avec une Goldwing. Ça, j'aimais moins. Le seul confort qu'il y avait, c'était on pouvait prendre beaucoup de bagages inutiles avec. Et on pouvait même dormir presque. On devait presque faire attention que sur l'autoroute, on ne s'endormait pas sur la moto. Et quand il pleuvait, on ne touchait pas une goutte.
Eh ben, alors ça, c'est de la moto. Sébastien ?
Est-ce que pour les adeptes de moto qui sont présents ici, la moto a un côté un peu méditatif ? On est seul sur sa moto, on est seul dans sa tête, on roule. Des fois, on ne sait pas vraiment où on va. Mais on roule et est-ce que ça a un effet méditatif ?
Rabbi ?
Oui, il y a un effet méditatif, il y a un effet contemplatif, il y a un effet, je vais chercher, je sais pas, des moments de solitude. Mais ce n'est pas vraiment des moments de solitude parce qu'on a l'impression que la moto nous accompagne. Elle est vivante, elle est avec nous, cette moto. C'est un compagnon. Donc finalement, il y a ces aspects-là. Ouais, ouais.
Et puis la moto, on est rarement seul parce que la moto, ça reste quand même une communauté, ça reste des clubs. Alors sans citer ces clubs, bien sûr, on ne va pas faire de la pub pour ces clubs qui se comportent mal sur la route. Mais ça reste quand même une communauté de gens qui vont ensemble, qui partent, ils font les relais routiers, ils se retrouvent entre amis. Et puis alors, il y a ce petit moment de solitude grisant de la vitesse. Mais en fait, on est rarement seul quand on part en moto.
En moto, on se reconnaît entre nous. On se fait signe.
Oui, c'est vrai d'ailleurs.
Voilà. Vous Donc avez la communauté, chose qui est bien. Elle est là, ouais. Même si...
Signe de la main. À chaque fois que les motards se croisent, il y a toujours un petit signe de la main. Je me suis toujours dit, mais si on devait faire ça avec ceux qui n'ont que des Skoda, mais on ferait comment? On ferait tout le temps comme ça. Mais c'est vrai que c'est une communauté.
C'est une communauté, oui. Ouais.
Alors, on va juste prendre le micro. Il y a ceux qui ont...
Ceux qui ont les Porsche qui font ça aussi.
Ah, ceux qui ont les Porsche, oui, c'est vrai. Peut-être c'est une autre style de communauté. Joël.
Alors moi, il y a un truc que je regrette beaucoup, parce que c'était dans les années 70, 80. Donc, étant gamine, j'en voyais énormément. C'était les sidecars. Et je rêvais, je me disais, quand je serai grande, j'aurai un sidecar. Et puis, non, ça se fait de moins en moins.
Eh bien, je vous propose qu'on se quitte gentiment sur ce voyage. Finalement, on était à mi-chemin entre le voyage et spirituel, on pourrait dire, de cette rencontre entre motards. Hein. Notre émission, comme je dis, touche à sa fin. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Merci à nos participants du jour. Un grand merci à Loïse, à la technique. Un grand merci encore à Camille Bovier d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions. Merci aussi à Sébastien. Je remercie, mais vraiment une touchée très spéciale parce que ça fait quelques semaines, mois, que j'invite nos médecins assistants à venir participer à l'émission. Merci d'être le premier. J'espère qu'il y en aura d'autres. Merci à Rabi aussi d'être là parmi nous. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle escale sur les ondes de Pavillon Nomade. On se quitte pour voyager toujours un peu plus avec une chanson qui s'intitule Miracle of Sound par Valhalla.
Ships on vigor of the waves are skimming barren summits through the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise.